Cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jodard, le 15 mai 1991.
Nous avons commencé à regarder le point de vue de l'opération vitale de l'amour, de la volonté, dans la perspective de la philosophie du vivant. Toute éthique est présupposée. Donc toute analyse que nous avons faite au niveau éthique, nous pouvons nous en servir pour entrer dans l'étude spéculative de la puissance que nous devons poser pour expliquer, comprendre toute cette gamme volontaire. Alors, je les rappelle simplement, sans les analyser, pour essayer de nous poser le problème de la découverte de ce que c'est que cet appétit volontaire, ce que c'est que la poésis, la volonté. Nous partons de l'expérience de l'amour d'amitié, puisque c'est là où l'aspect volontaire est le plus explicite. Nous partons du choix volontaire, avec le point de vue de l'intention et du premier amour. Je crois que c'est suffisant au point de vue philosophie du vivant, de prendre ces trois actes dont nous avons l'expérience. Le volontaire, un acte volontaire libre, un acte volontaire qui s'impose à nous, un acte volontaire qui implique un ordre, mobiliser nos forces. Ces actes différents ont quelque chose de commun. Et ce quelque chose de commun, c'est toujours le bien qui attire, le bien personnel, spirituel, qui attire. Nous avons déjà vu le bien sensible en étudiant ce que c'est que les passions, ou à ceux qui ont saisi, suivi le cours de l'année dernière sur la philosophie du vivant. On a étudié les passions. Bon, je ne les reprends pas ici. Ici, j'essaie de comprendre ce qu'est cet appétit volontaire, spirituel, l'affectivité au niveau spirituel, dont nous avons conscience, expérience interne dans l'amitié. Et nous voyons que ces trois actes qui font partie de l'amitié, le choix libre, l'intention et le premier amour, portent tous les trois sur la personne, sur l'ami, en tant qu'il est mon bien. Ils ont quelque chose de commun, tout en ayant des modalités différentes. Parce qu'on pourrait se poser la question, faut-il poser trois facultés différentes chacun de ses actes? On répond tout de suite non. Pourquoi? Parce que c'est toujours le bien spirituel donné dans la personne de l'ami qui se retrouve selon trois modalités différentes dans ses actes. Ou c'est l'ami en tant qu'il m'attire, c'est son amabilité. Ou c'est l'ami en tant qu'il me finalise, ou c'est l'ami en tant que je le choisis. Mais c'est toujours l'ami. Donc c'est toujours le bien spirituel. Et ce bien spirituel dont j'ai conscience dans un acte d'amour spirituel, dans un acte d'intention ou dans un acte de choix, ce bien spirituel s'impose à moi. Et je l'atteins à travers mes opérations vitales spirituelles. Alors je crois que la première chose qu'il faut bien préciser, c'est qu'il s'agit d'un bien spirituel. Donc, un au-delà des passions. Et j'ai conscience de cela. Je suis capable de discerner au plan philosophique et au point de vue de ma conscience un appétit sensible, passionnel et un appétit spirituel. Bien que de fait, dans l'exercice, l'appétit spirituel n'est jamais à l'état pur et que l'appétit passionnel n'est jamais à l'état pur. C'est toujours un mélange. Ça, je constate tout de suite. Vous pouvez lire ce que Raymond dit au plan spirituel sur toute la querelle de l'amour pur, du pur amour. Alors ça existe au plan spirituel, mais on pourrait très bien le faire au point de vue philosophique. Quelqu'un qui dit à son ami, je t'aime d'une manière absolument pure. C'est toi que j'aime. Moi, je m'oublie complètement. C'est toi. Je suis tout entier tourné vers toi. Je suis d'une générosité absolue. Et je ne pense qu'à toi. Et c'est toi. Et c'est pour toi. Les personnes qui disent ça se leurrent imaginativement. Parce que tout amour implique un aspect subjectif. C'est très vrai que l'amour spirituel regarde l'ami, le bien, pour lui-même. Le point de vue surnaturel, le point de vue théologique, on verrait quelque chose de semblable. Évidemment, au point de vue surnaturel, plus on s'élève dans l'amour, plus l'amour peut être pur. Et même la charité, l'agapé, ne s'exerce jamais sans un aspect humain. Exactement comme la foi ne peut jamais être un acte pur de foi sans que l'intelligence soit là. Et ça, c'est très important à comprendre. Ce qui fait dire qu'il y a des purifications actives et des purifications passives. Les purifications passives, c'est à l'intérieur même de l'agapé. Et les purifications actives, c'est tout l'aspect humain qui accompagne l'exercice surnaturel de charité. Ça, on peut le mettre en nota bene au plan philosophique. C'est pas directement de la philosophie, mais c'est intéressant à comprendre que l'amour saisit et prend tout le sujet. Mais il y a une note dominante. C'est ça qui est important à saisir. Il y a une note dominante. Dans l'amour d'amitié, j'aime l'ami en tant qu'il est raisonnable, en tant qu'il m'attire, en tant que je l'ai choisi, en tant que je l'aime, c'est lui que j'aime. Mais je l'aime avec tout mon être. Je ne peux pas abstraire l'amour. C'est la très grande différence entre l'amour et le point de vue de la connaissance. La connaissance implique une abstraction. C'est pour ça que je peux avoir des mathématiques. Il n'y a pas d'amour mathématique. Ça n'existe pas. Un secteur particulier de l'amour qui est réservé aux mathématiciens. J'aime en tant que mathématicien. Donc j'aime d'une manière abstraite. Ce que j'aime, c'est ton intelligence mathématique. C'est ça que je peux aimer chez quelqu'un son intelligence mathématique. Mais c'est lui que j'aime. Et les mathématiques me servent de moyen de l'aimer. Et c'est lui que j'aime, c'est la personne que j'aime. Ça, je peux l'expérimenter. Quand vous expérimentez un véritable amour spirituel pour quelqu'un, vous sentez que cet amour spirituel implique des éléments imaginatifs, un amour romantique. C'est-à-dire qu'au fond, vous aimez la personne à travers un halo. Vous êtes fait de cette personne une sorte d'idée, d'idole. C'est ça l'idole, l'image. Et cet amour n'est plus alors dans son réalisme propre. Il est idéaliste. On dirait un amour platonique. Donc il est rempli d'images. Un amour romantique. Si j'ai en moi des passions très véhémentes, l'imagination se nourrit des passions. Et l'imagination, alors, à ce moment-là, risque, surtout en l'absence de celui qu'on aime. Alors, l'imagination grossit, amplifie. Et l'ami n'est plus vu dans un réalisme qu'il est normal d'atteindre. L'amour qu'on a pour quelqu'un risque toujours d'avoir ses bavures imaginatives. Tout le temps. Parce que j'aime avec tout mon être. Et quand il y a des séparations, quand on ne peut pas vivre avec l'ami autant qu'on le voudrait, l'imagination supplée. Alors on imagine, et on vit avec une image. On se représente. On représente l'ami. Il y a une photo de la personne qu'on aime. Et la photo fait que, puisque la personne n'est plus là, c'est d'ordre intentionnel la photo. Ça nourrit l'imaginaire. Il y a, avec l'imaginaire, les passions. Toujours. Et nous avions vu que toutes les passions sont commandées par la passion amour. Avec les 11 modalités particulières, ou les 10 modalités particulières. Mais c'est quand même très curieux. Comme il y a 10 prédicaments, il y a 10 modalités d'amour au niveau passionnel. Vous pouvez très bien faire le parallèle entre les deux. Et c'est tout un aspect qui nous permet de mieux comprendre le halo imaginatif de l'amour. Parce que l'imagination joue follement dans les passions. Et vous avez de fait 10 modalités de l'amour passionnel qui proviennent de l'expérience que nous constatons comme des prédicaments. Les prédicaments sont des multimodalités de l'être. Là, vous avez multimodalité du bien sensible. Les prédicaments sont au niveau physique de l'homme, tel qu'il est. Et les passions sont au niveau de l'homme, tel qu'il est, avec sa sensibilité, avec son imagination. Et puis, il y a aussi l'instinct qui peut s'éveiller. en disant vous le prenez dans votre cœur. En réalité, vous ne le prenez pas dans votre cœur. Vous captez l'amour captatif. Vous le captez, vous le prenez. Et vous mettez celui que vous aimez en prison. Une prison dorée, puisque c'est la prison que vous avez vous-même établie pour celui que vous aimez. Mais vous ne voulez pas qu'il puisse s'évader. Et donc, il n'a pas le droit de regarder quelqu'un d'autre. Il n'a pas le droit d'accepter l'amour de quelqu'un d'autre. Oui, je prends le cas extrême. Le cas extrême d'un amour jaloux, passionnel, qui est captatif. L'amour passionnel est captatif. L'amour spirituel est oblatif. Qu'est-ce que ça veut dire au plan spirituel, au plan philosophique? Parce que ces termes psychologiques sont intéressants et importants. Ils relèvent d'une expérience que nous pouvons tous faire. Il faut essayer de comprendre au plan philosophique qu'est-ce que ça veut dire. Ça exprime que l'amour spirituel me fait aimer l'autre pour lui-même. C'est ça le caractère propre de l'amour spirituel, volontaire. Aimer l'autre pour lui-même. Pour moi en premier lieu. Et là je découvre que l'amour spirituel est premièrement extatique. Il me fait sortir de moi pour rejoindre l'autre. Et c'est rejoindre l'autre qui est important. C'est rejoindre l'autre dans cette extase, dans cette sortie de moi qui me permet de m'unir à lui. Je crois que c'est le caractère premier de l'amour spirituel. Distinct de l'amour captatif. Alors vous voyez, en nous, il peut y avoir comme une espèce de drame, de lutte entre la passion qui s'éveille et qui veut à tout prix capter celui qu'on aime et l'amour spirituel qui veut au contraire l'offrir parce qu'on l'aime pour lui. Ce sont deux mouvements différents et même opposés. D'un côté, je suis tout entier tourné vers lui. Et je l'aime pour lui. Et je veux qu'il soit libre. Et je veux qu'il ait ses initiatives. Et j'accepte les séparations parce que je l'aime. Et je sais que mon amour pour lui ne doit pas peser sur lui. De l'autre côté, au contraire, je ne veux pas qu'il s'éloigne. Je veux qu'il reste tout proche. Et je lui ferai toutes sortes de déclarations que sans lui je meurs, que sans lui je suis prêt à me suicider. Un tout petit chantage, vous savez, tout le petit chantage qui est un chantage passionnel. Il n'y a pas de chantage au niveau spirituel, tandis que la passion, elle chante très bien, parce qu'elle essaie d'amener celui qu'on aime dans notre filet et qu'il ne s'éloigne plus. Et qu'ils comprennent que c'est son bien de ne pas s'écarter. Ça, c'est le chef-d'œuvre. De faire croire qu'au fond, c'est l'autre. On est indispensable à l'autre. Alors que c'est juste l'inverse. C'est l'autre qui est indispensable à nous. Au niveau passionnel. Au niveau passionnel, on connaît tous ça. Du moins, j'espère. Parce que si on ne le connaît pas encore, c'est dommage. On le connaîtra plus tard et c'est beaucoup plus dangereux quand on commence à en avoir, vous voyez, les printemps tardifs. Il y a des gens qui commencent à aimer à 45 ans. C'est très ennuyeux. Quand il n'y a pas eu ce premier amour, ce premier réveil, vous voyez, passionnel, dont on doit être de plus en plus conscient. C'est pas un défaut d'aimer passionnément. C'est pas un défaut. Le défaut, c'est quand la passion étouffe l'amour spirituel. Alors là, c'est mauvais. Mais aimer passionnément quelqu'un, dans sa vie, aimer quelqu'un passionnément, heureusement. Si on n'a jamais aimé passionnément quelqu'un, encore une fois, c'est très ennuyeux. Parce qu'il y aura sûrement un moment où ça arrivera, plus tard. Quand ça arrive plus tard, vous voyez, on est dominer la passion. On n'a pas pu l'éduquer. Quand on est jeune, on l'éduque. C'est ça l'éducation de l'amour. C'est éduquer cet amour passionnel. Et faire que cet amour passionnel ne déborde pas. Et n'étouffe pas l'amour spirituel. Et qu'on ressente les deux et qu'il y ait des luttes en nous. Il faut être lucide. Il faut savoir qu'on a des passions. C'est la même chose pour la tristesse. Il y a une tristesse passionnelle. Et il y a une tristesse spirituelle. La tristesse passionnelle, vous voyez bien, c'est nécessairement le repli sur soi. Qui est l'opposé du désir et qui fait qu'il n'y a plus d'élan. Le désir donne un élan. Dès que là, il y a une tristesse. La tristesse, c'est la présence du mal. Un mal sensible qui s'empare de nous et qui alourdit terriblement notre psychisme. Et qui fait qu'on n'en sort plus. On est pris par ça. Et cette tristesse peut conduire à l'angoisse. Pas toujours. Mais cette tristesse peut conduire à l'angoisse. Et l'angoisse peut provenir d'autre chose que la tristesse. Il peut provenir du scrupule. Il provient toujours d'un repli sur soi. Et c'est toujours l'aspect passionnel qui est au point de départ. Avec l'imaginaire de l'angoisse. C'est pas l'amour spirituel qui angoisse. Jamais. C'est pas la tristesse spirituelle qui angoisse. Qui angoisse et qui inhibe par le fait même. On est comme dans l'impossibilité de lutter contre. Alors c'est à ce moment-là qu'on va voir un médecin, un psychologue. Constamment. Alors il va vous donner quelque chose pour en sortir, des médicaments. Parce que c'est le point de vue passionnel qui implique un point de vue physique. C'est évident qu'il y a un point de vue physique dans tout l'exercice des passions. Un point de vue somatique, comme on dit aujourd'hui, qui est lié aux passions. Quand l'élément spirituel domine, on aime l'autre pour lui. Et en l'absence de celui qu'on aime, on peut essayer de lutter contre ses passions pour maintenir un désir spirituel. D'aimer vraiment au-delà de l'accaparement. Puisqu'on ne peut pas supporter l'accaparement. Parce qu'on sait que l'accaparement, que l'amour passionnel d'accaparement tue l'amour, le véritable amour. Une fois qu'on a compris ça, on lutte de la manière la plus forte contre ses passions. Non pas pour les supprimer, mais pour les empêcher de tout envahir. C'est comme une mauvaise herbe qui envahirait tout et qui empêcherait de mettre alors les plantes qu'on voudrait mettre, les fleurs qu'on voudrait mettre. C'est ça la passion. La passion, si on la laisse tranquille, elle prend tout. Et lutter contre les passions, c'est justement permettre à l'amour d'être parfaitement lui-même, d'être un amour spirituel, d'être un amour humain. L'amour passionnel n'est pas humain. Il est animal. Les animaux ont des passions semblables aux nôtres. Mais les animaux n'ont pas l'amour spirituel. Donc il n'y a pas cette lutte. Et c'est pour ça qu'ordinairement, il n'y a pas chez eux, ou très peu, de refoulement. On comprend très bien, parce que c'est un amour instinctif et passionnel. Et il le laisse. un amour spirituel et un amour passionnel. Oui, d'une main, on veut posséder, de l'autre, on offre. Intérieurement. Et on essaie que l'amour spirituel l'emporte. Et ça, je crois que c'est capital. Donc le premier signe de l'amour spirituel, c'est que c'est un amour oblatif, c'est-à-dire au fond extatique. Fait aller au-delà cet amour spirituel qui nous fait sortir de nous, qui nous fait aimer l'autre pour lui-même, implique nécessairement une sorte de désintéressement. C'est-à-dire au-delà de l'aspect utilitaire. On aime vraiment l'autre pour l'autre. Et on l'aime au-delà de la jalousie. Y a-t-il une jalousie spirituelle dans l'ordre de l'amour spirituel? Ce serait intéressant à voir cela. Ou est-ce que toute jalousie provient de la passion? Peut-il y avoir une jalousie d'ordre spirituel? Bien, je ne crois pas. Je crois que toute jalousie provient de l'amour passionnel. Parce que, au plan spirituel, on comprend que le bien qu'on aime spirituellement, à quelque chose qui dépasse cet amour qu'on a pour cette personne. Et donc on respecte que cette personne puisse être aimée de diverses manières, qu'il y ait une diversité dans cet amour spirituel, diverses modalités. Puisque on ne saisit jamais totalement la personne dans son bien, on n'en saisit qu'un aspect, ce qu'on est capable de saisir. Et donc, on accepte qu'un autre puisse aimer aussi la même personne. Mais, comme l'exercice de l'amour d'amitié ne peut pas s'exercer au-delà du temps, qu'il est inscrit dans le temps et qu'il est incarné, il pourra y avoir une certaine jalousie spirituelle du fait que telle personne qu'on aime semble consacrer plus de temps à l'autre qu'à nous. Vous voyez l'aspect quantitatif qui intervient du côté de l'exercice. Ce n'est plus l'objet comme tel, ce n'est plus le bien spirituel comme tel qui suscite cette jalousie. C'est du côté de l'exercice. Parce que l'exercice de l'amour se fait nécessairement avec notre sensibilité, il est dans le temps. Même si vous dites élégamment, je t'aime tellement que c'est au-dessus du temps, et je t'aime tout le temps. Nécessairement, tant qu'on est sur la terre, lié au corps, lié à l'univers, l'exercice de notre amour est dans le temps. Et parce qu'il est dans le temps, il y a un aspect quantitatif. Et celui qui prend beaucoup, nécessairement prend sur les autres. Ça ne peut pas être autrement. Et par là, il y a une certaine jalousie spirituelle qui intervient. Vous voyez, mais c'est toujours un peu matériel. Parce que ça importe peu de vivre longuement avec quelqu'un si on s'ennuie avec cette personne. Et qu'on fait un acte de vertu extraordinaire pour avoir mesuré par le temps. L'amour est au-delà du temps, il est purement intérieur. Vous voyez, comme la jalousie essaie tout le temps de se rattraper. C'est très beau du reste, hein. C'est pas que négatif la jalousie. La jalousie exprime l'absolu de l'amour. Alors c'est peut-être là qu'il faut aussi découvrir la différence entre l'amour spirituel et l'amour passionnel. L'amour passionnel voudrait être absolu et ne l'est jamais. L'amour spirituel, lui, peut être absolu. Alors comprenons que l'amour passionnel ne peut jamais être absolu, mais il voudrait l'être. Il est subjectivement absolu. Mais pas objectivement. Parce que c'est un amour sensible. Il y a un amour sensible toujours relatif. Mais il peut être subjectivement absolu. On peut aimer passionnément en ramenant tout à la passion. Alors ça devient subjectif. Et c'est un amour passionnel, absolu, qui fait que cette personne qui aime passionnément est toute polarisée et dans toutes ses activités les plus spirituelles est polarisée par ça. Alors ça c'est pas bon. Parce que c'est un absolu subjectif, imaginatif, passionnel, qu'on a imaginé en soi, mais qui n'est pas réel, qui n'est pas vrai. Parce que on ne peut pas aimer d'une manière absolue un bien sensible. Mais comme la passion chez l'homme est toujours liée à un amour spirituel, je peux imaginativement que ce bien sensible soit lié à la personne d'une manière telle que il y a même objectivement un certain absolu. Et ce n'est pas juste. C'est imaginatif. Mais ça fait que c'est quelquefois très difficile d'en sortir. Une passion véhément d'amour, vous savez bien, c'est comme un cheval au galop, ça apprend tout. On voit ces choses-là, des gens qui sont mariés, qui s'aimaient très fidèlement, et puis soudain, un amour passionnel fait irruption, un amour volcanique, et que si on ne fait pas grande attention, il prend tout. Il faut détecter que c'est un amour passionnel qui réclame d'être mesuré et relativisé par un amour spirituel. Et que cet amour spirituel seul est absolu. Que cet amour spirituel seul peut vraiment, en toute profondeur, polariser toutes mes forces. Tandis que l'amour passionnel polarise toutes mes forces d'une façon indécise. Donc d'une façon imaginative et d'une façon subjective. Je peux détecter cela. Je peux. C'est pas commode parce que quand j'aime, ordinairement, je veux aimer et ne rien regarder et ne pas analyser. Je vois donc cette distinction de cet amour spirituel. Et je vois que cet amour spirituel peut se donner à moi de ces trois façons les plus nettes. Il y en a bien une quatrième. Mais il est moins immédiat. Il est de l'ordre de l'exercice. Donc, il ne structure pas. Tandis que le premier amour, l'amour passionnel, et l'amour de réceptivité et de surabondance. Cet amour va impliquer une puissance qui va le bien personnel. On analysera ça la fois prochaine.